Alors, vous vous appelez Monsieur Pasquini Jean-Baptiste?
Oui, né à propriété le 6 septembre 1926. Ma mère est une Tahitienne et mon père écosse. Mais s'il faudra chercher, par exemple, au niveau de la généalogie, je peux dire que je suis un descendant de la presqu'île. Oui, parce que ma grand-mère, côté maternel, s'appelle Weihau Avehiatua, donc le Tchoko. Et le grand-père s'appelle Tetuanui Amati, le Tautira. Et mon père, écosse. Alors je suis directement concerné par la presqu'île. Voilà la situation dans laquelle je suis. J'ai fait mes études à l'école des frères Ploermel. J'ai terminé mes études en 1943. En sortant des études, j'ai débuté à travailler au magasin Martin comme écrivain. Et en 1944, au mois de mars, je me suis engagé volontaire dans les forces navales françaises libres. J'ai été embarqué à bord du Cap des Palmes. J'ai fait la campagne au Salomon de 1944 à 1945. J'ai rejoint la France et je suis revenu à Tahiti en 1946 en même temps que le contingent par le Sagittaire arrivé à propriété le 6 mai 1946.
Pouvez-vous nous préciser? Ça marche pas. Pouvez-vous me préciser le nom de vos enfants, le nom de votre épouse et le nom de vos enfants?
Je me suis marié en 1956 à Mademoiselle Matatapoki, une descendante rarotongienne. Et nous avons eu 6 enfants. Maintenant, les actes de naissance,
non,
ça fait rien. Alors, l'aîné, c'est Bernadette, le cadet, c'est Jean-Marie, il y a Poema, il y a Amon-Paul et Oléna.
Oléna. Pourquoi est-ce que vous avez voulu être capitaine de bateau?
À mon retour de la guerre, j'avais toujours cet esprit d'aventurier. Et on nous a proposé à tous les anciens volontaires une place dans l'administration, dont je suis sûr une grande partie avait refusé. Moi, personnellement, j'ai refusé parce que je ne voudrais pas rester dans un bureau. J'avais le sentiment d'être un aventurier et la seule chance que j'avais, c'est d'avoir rencontré un soubricargue qui s'appelait le soubricargue était le soubricargue de la Florence et il m'avait demandé si ça ne m'intéresserait pas de partir avec lui comme maître soubricargue à bord de la Vaïkité. C'est comme ça que j'ai pris la décision de revoir du pays, c'est-à-dire en Polynésie, les Tuamotu, et ça m'a donné l'idée de choisir ce métier. Voilà. Par la suite, Après avoir navigué pendant à peu près un an et demi comme aide soubricargue, on m'a débarqué cette fois-là pour travailler dans un bureau, qui était le bureau de la maison Mervyn, dont dépendait ce bateau. Et là, au journal, dans un des journaux de Papeïté, on indiquait comme quoi qu'il y avait une école de capitaine qui se préparait et que les cours allaient commencer en 1953. Et cela m'a intéressé, et c'est comme ça que j'ai suivi les cours de capitaine, en étant à terre. Et à ce cours, je tiens à préciser que nous étions, comme élèves, il y avait Mamie Gazon, Pierre Pétès, Paul Poutou, Germain Coulomb, il y avait Germain Coulomb, Henri Vernodon et moi-même. Les examens se sont passés à la Marine nationale en 1954, et c'est comme ça que je ne suis pas seul comme capitaine qui a passé à cette fois-là. C'est toute une promotion. Hein. Et c'est cette nouvelle génération qui a commencé à prendre le commandement des bateaux.
Et avant vous, il y avait des capitaines polynésiens aussi?
Déjà. Oui, oui, il y avait des capitaines, c'est-à-dire la majorité des capitaines sur les goélettes étaient des capitaines polynésiens. Comme il y a Temari, il y avait Doum, il y avait les Goudines, il y avait Lecaille, Loulou Lecaille qui avait commencé à naviguer, il y avait Voirin, mais qui était déjà avant nous. Il y avait Châtaignier, il y avait Louis Chebré, il y avait Momo Amaru, hein, qui étaient des capitaines qui commandaient la flottille. Parce qu'en ce moment-là, si ma mémoire est bonne, il y avait au moins 20 et quelques goélettes qui faisaient les trois motos, simplement les trois motos. 20 et quelques goélettes. Rien que Rangiroa, par exemple, l'île de Rangiroa. Il y avait la Maristella, il y avait Hauptertirei, il y avait Thierry Tahiti, il y avait la Florence Robinson, il y avait la Nicole qui faisait ces îles-là. Pourquoi? Parce que la production du copra était énorme et permettait le chargement de ces bateaux-là.
Et quel bateau avez-vous été capitaine?
Le premier bateau que j'ai commandé, c'est l'Oiseau des îles 2. Que j'ai commandé, parce que toute ma navigation, c'est-à-dire d'apprentissage, j'ai été embarqué à bord de l'Oiseau des îles 1, qui était le voilier à trois mâts, comme pilotin, c'est-à-dire élève capitaine. Et le commandant était le commandant postulier. Et j'ai fait toute ma pratique pendant un an et demi. Par la suite, j'ai passé second capitaine. À ce moment-là, l'Oiseau des îles 2 étant arrivé de France, on m'a embarqué à bord de l'Oiseau des îles 2 comme second capitaine. Et en 1955, j'ai pris le commandement en remplaçant du capitaine pendant 5 mois. Et par la suite, la compagnie de phosphate est fermée. J'ai quitté et j'ai pris le commandement du Temehami. Le Temehami, j'ai commencé par faire la ligne des îles Soulevent. Et par la suite, j'ai pris le commandement de l'Orohena. Alors là, c'était pas à l'administration, ça appartenait à M. Blouin, qui avait loué au CEP. Parce que débutaient aussi à ce moment-là les travaux à Mururoa et à Hall. Et l'Orofena était le bateau qui faisait les relations en transportant les militaires, les légionnaires là-bas.
Et ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite maintenant?
Oui, alors y a aussi mon dernier bateau de navigation, c'est-à-dire c'était le Taporo, hein, dont j'ai travaillé pour la maison Donald pendant 9 ans. En quittant la maison Donald, j'ai travaillé au port comme capitaine d'armement de la flottille du port autonome. Et j'ai demandé à aller à la retraite en 1981. Et par la suite, j'ai continué quand même à naviguer sur différents bateaux. Et un des derniers bateaux, c'est lorsque je suis parti au Danemark pour aller chercher le Saint-Xavier Maristella qu'on a aujourd'hui. C'est moi qui l'a amené du Danemark à Tahiti.
Et vous avez qui comme équipage avec vous alors, quand vous êtes revenu
Avec la Maristella.
Oui.
Bon, il y avait le second qui est le capitaine à bord maintenant, qui est Elias Salem. Le chef mécanicien était Vito Salem. Les matelots, il y avait trois marins, dont un s'appelait Napoléon, j'ai pas en tête le vrai nom. Nous étions sept équipages pour venir de là-bas ici. Parce que c'est un voyage de. Comment qu'on appelle ça? Un voyage de convoi. On envoie le bateau. Hein. On ne demande pas l'équipage complet.
Maintenant, pendant votre vie de capitaine, vous n'avez pas de petites anecdotes intéressantes à nous raconter?
À ce niveau-là, moi personnellement, il y a les péripéties, par exemple, de la planche de la nacre. Lorsqu'on était obligé à l'ouverture d'une planche, soit à Takaro, à Takapoto ou à Hikumiru, on était plutôt forcé. Les bateaux de passer dans certaines îles pour récupérer les plongeurs, pour les envoyer au lieu de plonger, c'est-à-dire soit à Takaroa, soit à Takapoto, soit à Hikuru. Et là, il faut voir à peu près ce qui se passe, c'est que tout le monde arrive avec leur pirogue, on parque à bord, ils ont des chiens, ils ont des cochons. Alors c'est vraiment l'arche de Noé, ça.
C'était la vie dans les îles autrefois, hein, quand on voyageait avec tout ça.
Oui, et puis surtout ces gens-là, tout au début dans les îles de Tuamotu, à mon avis, c'est que ils étaient pour ainsi dire des personnes sédentaires, c'est-à-dire qu'ils restaient complètement sur l'île. Et pour qu'un Tuamotu venait à Tahiti, c'était très dur parce qu'ils n'avaient pas de famille ici, ils n'avaient pas d'hôtel, ils n'avaient pas. Alors eux, ils n'aimaient pas venir ici. Et s'il y a des fois qu'il y avait des Tuamotu qui venaient ici, à Tahiti, ils habitaient à bord. Oui, de préférence, ils habitaient à bord. Pendant tout le séjour du bateau à Papeete, ils sont à bord. Et là, c'était pour ainsi dire, pour eux, l'ouverture de la planche, c'est un peu la ruée vers l'or, hein, c'est pour eux. Hein. Mais en fin de compte, entre nous, hein, ça n'a jamais rien servi à Tuamotu, hein, parce qu'ils ont été tous. Ils ne savent pas garder l'argent.
Oui.
Voilà.
Ouais. Et quand ils ont de l'argent.
Ah non, ils ne savent pas. Quand ils ont de l'argent dans la main, comme si ça les brûlait, il fallait les dépenser le plus possible. N'importe comment. Ils achètent très bien n'importe quoi. Sans savoir à quoi ça va servir. Hein.
Et il n'y avait pas en ce temps-là pour la nacre, pour les perles. Il y avait les perles déjà. Hein,
oui, c'est-à-dire les perles naturelles. C'est très rare, on peut trouver. Très rare.
Mais il n'y avait pas déjà un gros fournisseur comme Van.
Non. C'était le plongeur lui-même qui était propriétaire de sa perle. Je pense, dans une année, par exemple, il y a peut-être une ou deux perles. Oui, une planche. Et la personne descendait à Papeete avec sa perle et essayait de négocier à un bon prix. Il y avait probablement 3 ou 4 acheteurs de perles à Tahiti. Oui, de perles par planche. Et encore des fois, il n'y en a pas. Oui, ça dépend. C'est une chance sur 1000. C'est une...
Mais sinon, ils vivaient avec le copra, alors.
Exclusivement du Copra. Et ils étaient encore, à mon avis, ils étaient... Comment il faut dire ça? En ce temps-là, ils vivaient qu'avec le Copra. À mon avis, ils étaient heureux. Ouais. Et d'abord, ils n'avaient pas créé, par exemple, comme on a aujourd'hui, le Pomoutou, quand il était dans les îles. Quand il se déplaçait dans le lagon, il avait son cote ou sa pirogue, il naviguait à voile. C'était l'engin de propulsion, c'était le vent. Tandis que maintenant, on a des moteurs, hein, on est tributaire de la gasoline, de tout ce qui s'ensuit, et des réparations de moteurs. Alors, à ce moment-là, ils se sont créés des ennuis, si vous voulez. Hein. Et là, ils sont très malheureux. Quand il y a un manque d'essence, il faut voir dans les trois motos comment ils sont malheureux. Ils n'ont plus le moyen de déplacer.
Ouais. L'évolution...
J'appelle ça l'évolution au progrès, mais seulement.
Non, mais eux. L'évolution a abîmé les trois motos.
Non, mais en plus de ça, c'est que déjà en 1950 ou 51, on s'est aperçu déjà en ce temps-là aux trois motos que le tonnage du Copra, de la production du Copra dans les trois motos, était en train de commencer à baisser. Déjà là, on devait s'attendre un jour que la production du Copra dans les trois motos allait stopper. Et je tiens à dire comme quoi que le service de l'agriculture n'a pas fait son boulot comme il devrait le faire, à mon avis. Hein. Ils ont essayé d'abord d'envoyer des engrais, et puis les engrais peut-être ont coûté trop cher, ils ont arrêté les engrais. Comme les cocotiers, ils ont eu l'habitude de vivre avec les engrais. Quand on a arrêté les engrais, ils sont devenus plus faibles encore que début. Alors, par la suite, ils ont trouvé comme quoi qu'il fallait tuer les rats, parce que les rats, soi-disant, détruisaient à peu près 20 à 25% du tonnage du copra. Alors ils ont envoyé de la warfarine là-bas, qui est un poison, qui a empoisonné aussi bien les rats que les poulets, parce qu'ils ont probablement été mal informés, comme quoi qu'il fallait peut-être mettre ça sur les cocotiers et non pas au pied du cocotier. Ah oui, c'est catastrophique. Mais en fin du compte, le tonnage du copra est complètement dégringolé. Alors, il peut se faire, par exemple, lorsqu'on voit autour de moto. Moi, personnellement, j'en ai discuté avec pas mal qui ont abandonné leur copra du Rahui. Pourquoi? Ben, c'est à cause que le cocotier ne produit plus. Le cocotier est âgé, plus de 100 ans. Hein? Alors, il n'y a presque pas de coco. Et lorsqu'il faut faire le déplacement pour aller au Rahui, c'est-à-dire à l'intérieur, hein, avec l'embarcation propulsée par un moteur qui avale de la gasoline, ben, c'est-à-dire la production du copra ne permet même pas à payer l'essence du trajet. Alors il vaudrait mieux ne pas y aller. C'est comme ça que la plus grande partie des cocotiers dans les rahuis ont été abandonnés.
Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a eu des trafics entre bateaux, entre...
Non, parce que là, je vais j'ai des précisions à faire. En parlant de trafic, c'est probablement le trafic de Rome. Lorsque j'ai commencé à naviguer, c'est-à-dire dans toutes les îles des Tuamotu, aucune boisson alcoolisée n'est permise. Sauf autorisation de l'administrateur. Il fallait faire une demande adressée à l'administrateur des Tuamotu ici à Tahiti, qui délivrait une autorisation comme quoi que ce bateau était autorisé à transporter la quantité de boissons demandée par une tierce personne qui est dans les îles. Si on réfléchit bien, à qui on permet des autorisations, c'est un peu au chef de chaque île, qui, de toute façon, qui sont bien logés dans, en général dans les Tuamotu, et quand l'administrateur se déplace, c'est chez lui qu'il est reçu. Bon, alors, à cela était permis, mais aux autres, ce n'était pas permis. Oui. Et comme ces gens-là habitent dans des îles un peu enfermées sur eux-mêmes, de temps en temps, ils ont besoin d'une soupape pour essayer de se libérer de ça. Hein? Et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est soit de faire de l'alcool, soit alors d'acheter de l'alcool à bord des bateaux. Et comme ces gens-là viennent à bord solliciter à chaque fois qu'ils ont besoin de rhum, surtout de rhum, non pas de vin ni de quoi que ce soit, c'est du rhum. Et secondo, il ne faut pas oublier que la majorité des médicaments des Tuamotu étaient à base de rhum. Alors, il y a ça, et aussi la soulographie, si vous voulez. Et alors, et comme on a déjà le capitaine, le subrécal est bien vu par des gens des Tuamotu, c'est à partir de ce moment-là que certains capitaines, que je suis sûr que presque tous les capitaines ont fait du trafic de rhum.
Pour aider la population,
si tu veux, c'est un peu un sens d'aider la population. Alors,
ouais, si on vous voyait, on vous chopait là, on vous pénalisait dans le temps.
Oui. Alors, si vous voulez, lorsqu'un bateau, par une descente des douaniers, était pris en flagrant délit, qu'il a à peu près 10, 15, 20, 30 ou 40 litres de rhum, lorsque vous êtes pris en flagrant délit et qu'on vous fait un PV, vous êtes obligé de payer à l'administration pour chaque litre de rhum. C'est-à-dire, dont le prix est 1500 francs. En ce temps-là, c'était très cher. Alors, quand un marin ou un capitaine ou un membre de l'équipage fait du trafic de rhum, donc il est forcé de le vendre à peu près à 1500 francs le litre. Hein? Voilà le barème, si vous voulez, de rhum. Mais si le prix en flagrant délit, c'est 1500 francs par litre.
Maintenant, pouvez-vous bien préciser comment est-ce que ça se passait, le trafic de rhum?
Il est tout à fait normal, par exemple, avant qu'un membre de l'équipage fasse du trafic de rhum, de savoir, par exemple, qu'il va pouvoir vendre son rhum. À partir de ce moment-là, sachant très bien qu'il a une commande, c'est-à-dire une commande de 10 litres de rhum, ce voyage-ci, en arrivant à Papeete, il se dirige vers le magasin Yuyun, qui est à... Il se dirige vers le magasin Yuyun, qui est un magasin spécialisé pour mettre les litres de rhum dans des... Comment qu'on appelle ça? Des choses en paille, pour que ça se casse pas. Et il livre, le magasin livre lui-même la commande à bord de la grillette.
Bonjour.
Combien vous achetez la bouteille chez Yuyun alors, la bouteille de rhum?
La bouteille de rhum chez Yuyun revenait à 136 francs pacifiques.
Et vous le vendez à 1500?
À 1500 francs. Et tout ça, c'est dans le cas que si vous allez vous faire prendre par la douane, vous allez essayer de faire la balance entre 1500 francs et 2. Non.
Et c'est juste dans les années 60 que ça s'est prolongé, à peu près. Hein?
Je pense plutôt qu'il y a... pendant que j'ai navigué, non. Il y a d'abord Hikueru. C'est la plus grande alors. C'est l'île qui produisait le plus de lac. Secondo, je crois, ça doit être Takaroa et Takapoto. Après Marutea, Takume vient en cinquième position, à mon avis. Rien que Hikueru, par exemple, il a été, c'est-à-dire le lagon a été divisé en trois secteurs. Il y a le secteur du village, le secteur central et le secteur de Garou. Et ça, dans une idée bien simple, c'est que il fallait revenir à la planche tous les quatre ans. Et le quatrième secteur, il ne faut pas oublier, c'est Marutea Sud.
Ah,
alors on faisait le 1, le 2, le 3, et Marutea Sud le 4. Et on revenait sur le 1 à Hikueru. Hein? Marutea, en Sud.
Non, l'autre c'est tout à fait près des
Gommiers. Oui, des Gommiers, c'est celui-là qui faisait le quatrième. Parce que il est arrivé à une année, indiquée, lorsque la production de Marutea Sud était tombée plus bas que lorsqu'il y a des magasins qui vont là-bas, ils font un peu des calculs de probabilité. Pour que ça soit rentable, il faut qu'on ait à peu près 60 tonnes. C'est 60 tonnes globales en Marutea Sud, donc ça faisait à peu près 20 à 25 tonnes par magasin. Et quand le quota n'était pas arrivé, il faisait une demande après à l'administrateur, à Anne, qui était administrateur, de revenir replonger dans le secteur, c'est-à-dire dans le secteur, au lieu d'avoir 4 ans, c'est 3 ans, si vous voulez. Mais il venait, par exemple, pour demander à ce qu'on plonge pour 30 ou 40 tonnes de nacre, et puis pour que leur quota puisse... Alors c'est comme ça qu'on a à peu près, à mon avis, saccagé les fonds de Hikueru. Moi, je crois, hein.
Et qui étaient les grands vents? C'est Temariatea qui parle qu'il était sur les pétrolettes, là, qui allait emmener les pirogues, les plongeurs sur le secteur.
Oui.
Mais il a l'air de dire que c'est Nicolas qui est l'armateur de la goélette, je crois. Et donc, qui étaient les grandes maisons de Papeete, si on veut, qui faisaient le commerce?
Je crois plutôt qu'il faut revenir sur la question des magasins qui allaient là-bas. C'est-à-dire, ce sont des magasins... je crois plutôt que ce sont des grands magasins de Papeete qui faisaient un genre de coopérative et qui, dans une maison, je veux dire en dehors des armateurs, parce qu'il y a des armateurs, comme la maison Mervyn a toujours participé à la plonge. Il y a la maison Mervyn, il y a la maison Gallois, avec Cantau comme le grand patron. voyez le contre-calme. Le...